Bonsoir à tous. Je suis Béatrice Reynaud, la présidente de Lecture et Rencontre. Nous sommes les amis de la bibliothèque de Marly-le-Roi. Et nous avons organisé cette conférence sur les oiseaux pour fêter le printemps. Et je vois que ça a séduit beaucoup de monde. Merci beaucoup d'être venu. Et je remercie Xavier, par l'entremise duquel on a pu toucher beaucoup de gens. Xavier, notre jardinier du parc de Marly. Donc, je remercie également les bibliothécaires pour son accueil ici et pour avoir placé une sélection de livres, de romans, de BD, d'albums jeunesse, de DVD sur les oiseaux que vous pourrez emprunter à loisir. La table est tout au fond de la table. La voix. Donc, bienvenue Yves de Tonquédec, ornithologue. Je vais lui laisser tout de suite la place. Je voulais juste indiquer que nous avons aussi organisé la semaine prochaine deux visites ornithologiques. Les groupes pour ces visites sont malheureusement complets, mais je suis sûre qu'il y aura d'autres occasions. Bonne conférence. On l'applaudit.
C'est parti. Merci, bonsoir à tous. Alors effectivement, je m'appelle Yves de Tonquédec. Je suis ornithologue, mais on n'a pas vraiment de définition de ce que c'est qu'un ornithologue. Je suis surtout passionné par l'ornithologie. Voilà. Pour me présenter rapidement, je suis louveciennois depuis que j'ai l'âge de 4 ans et demi. Et j'ai subi l'élevage au collège Louis Lumière sous la férule de Françoise Gaillard avec mon petit frère. On en garde des souvenirs émerveillés. C'est très très sympa d'avoir des profs qui sont passionnés et qui communiquent les passions. Donc pour mon frère, c'était avec Françoise le théâtre. Voilà, moi j'ai rencontré des professeurs ou des ornithologues qui m'ont donné le goût de m'intéresser aux oiseaux, de les regarder. Et le premier ornithologue qui m'a mis la tête dans les oiseaux, c'était mon chef scout. Alors, il n'y a plus grand monde qui fait du scoutisme aujourd'hui. On était en culotte courte dans les ronces et le meilleur moyen de... Il y en a encore, oui, voilà. Mais voilà. Et voilà, on avait effectivement cette occasion incroyable d'aller dans la nature, passer des week-ends entiers et... nous, en tant que petits citadins, on découvrait des choses incroyables, comme la chouette hulotte qui chantait la nuit. On pensait que c'était que dans les épisodes de télé réalité ou des trucages comme ça. On était passionnés par ça. Ce soir, je suis venu vous parler de cette passion-là. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui savent reconnaître les oiseaux, qui savent les écouter. Et, voilà. Maintenant, ma passion... Elle a pris le pas sur mon métier. Je bossais beaucoup dans l'organisation informatique, des trucs avec des logiciels et des matériels, on oublie ça. Et mon dernier grand contrat a été de travailler pendant 4 ans et demi pour la Ligue pour la protection des oiseaux, où là j'étais entouré de fadas d'ornithologie. Que des salariés qui étaient complètement malades d'ornithologie. On faisait des formations et pendant les formations, les gens, les gars qui étaient devant moi, là, ils recevaient sur leur téléphone portable une photo à l'envers d'un pouillot fitis dans le brouillard. Et là, tout le monde s'arrêtait, ils se levaient tous, plus personne ne suivait les cours que je donnais. Donc je me suis dit, bon voilà, on est bien tombé avec des fous là, ça m'intéresse. Et j'ai arrêté effectivement de faire de l'informatique pour me consacrer à ne faire que des sorties nature et pour accompagner éventuellement les gens qui souhaitent mettre dans l'habitat dans leur maison, des gîtes pour recueillir la biodiversité. Et donc j'interviens auprès de certaines entreprises qui ont maintenant des injonctions pour garder, par exemple, les martinets ou les hirondelles, les moineaux ou les insectes qui sont habitués au bâti. Voilà, ça c'est le deuxième morceau de mon nouveau métier. Et... on rencontre des gens passionnés de construire des belles maisons, des immeubles adaptés, et ainsi de suite, et qui sont très intéressés de savoir comment on peut faire pour garder, de façon très simple, les mésanges qui sont les premières prédatrices de la chenille processionnaire qu'il va y avoir dans la résidence, et ainsi de suite. Voilà. Donc tout ça suppose de passer du temps avec eux, de regarder comment ils vont organiser les choses et de les accompagner. Ce soir, le challenge que Béatrice m'a fixé, on a essayé de se voir pour discuter en 2 minutes de ce qu'on allait pouvoir dire ce soir. On a passé 2 heures, et après la bibliothèque fermant à 20h, il a bien fallu qu'on trouve un moyen de... Voilà. Elle m'a dit, faites un peu quelque chose sur les oiseaux du parc de Marly. Alors, j'imagine que vous, au niveau de la géographie, vous savez où situer le parc et vous êtes baladé dedans. Il y a 2 choses qu'il faut que je vous dise, c'est que dans le parc, effectivement, on peut observer pas mal d'oiseaux. Il y a une gestion du parc aussi qui est très orientée par les jardiniers, très orientée sur la préservation de la biodiversité. Et on s'éloigne du parc de Versailles dans l'acceptation d'avoir des allées bien rangées, bien taillées, et ainsi de suite. Et on découvre, si on a un peu l'œil, des endroits, des mouillères, des endroits où on a laissé passer, on passe moins la tondeuse, des endroits où on va laisser des plantes pour que les oiseaux qui sont habitués à ça puissent s'y réfugier et s'y nourrir. Et là, je me suis dit, on a un peu discuté toujours, comment on peut présenter un peu les oiseaux du parc. Avec Olivier, avec d'autres personnes, on a fait on a dû faire des centaines de photos dans le parc d'oiseaux. On ne va pas les passer en revue ce soir. J'ai fait deux ou trois sélections dans lesquelles je voudrais qu'on les voit, on les regarde. Et puis, ça va nous permettre de déclencher des sujets ou d'avoir des réflexions sur notre environnement, notre biodiversité ou notre nature. Celle qui nous permet, effectivement, quand on a fini le boulot, quand on a passé une bonne semaine, d'aller passer un peu de temps dans le parc. Alors le matin tôt, ce matin, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'y aller, c'était un enchantement. Ça a chanté de partout. J'ai enregistré un truc, mais bon, je ne vous le passerai pas. Non, je ne vous le passerai pas. On va faire un exercice. On va voir si vous y arrivez. Je ne sais pas si je peux éteindre la lumière et passer un... Voilà. Alors là, il y a un carré, bon, juste, c'est... Le petit carré va disparaître. Le point que j'aime bien mettre en avant, j'ai mis cette photo où il n'y a pas beaucoup d'oiseaux, effectivement, pour commencer. C'est un point que je retrouve quand je discute avec les gens qui sont passionnés, avec les photographes, avec les gens qui prennent le temps de s'arrêter pour essayer de faire une photo d'un pouillot véloce. Bon, et c'est que, en fait, la nature passe son temps à nous observer. Et en me baladant, avec l'autorisation émérite accordée, transmise par Xavier, sur la possibilité d'aller faire des planquer, faire des affûts dans le parc et faire des photos, j'ai fait un jour cette photo dans le parc de Marly, où depuis 10 minutes, j'entendais un peu de bruit derrière moi, il y avait un chevreuil qui me regardait en train de faire des photos. Et je trouvais ça très marrant de me dire, j'essaye de regarder, d'observer la nature, et lui, il est curieux et il m'observe. Et il n'avait pas spécialement peur, il n'était pas effarouché, il était simplement curieux de savoir ce qui se passait là. J'ai gardé ça comme un peu comme un symbole de la nature. Il y a plus on passe moins de temps à observer la nature qu'elle ne passe, elle, de temps à nous observer. En vrai. Je ne sais pas si vous avez vu La Panthère des Neiges, ce film, ou lu ce livre. C'est vraiment la réflexion de ce gars qui est fonceur, qui veut tout défoncer, qui veut avancer à tout. Et tout d'un coup, il est emmené par un photographe animalier à l'autre bout de la planète, dans un désert aride, pour essayer de photographier hypothétiquement une panthère des neiges. Et il a beaucoup, 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 beaucoup de mal à s'arrêter. Et quand enfin il s'arrête d'être une pile électrique, Sylvain Tesson s'aperçoit que, depuis le début, la nature le regarde. Alors, je ne sais pas comment le faire pour avancer. La première chose que je voulais vous montrer, c'est de faire un petit rappel des oiseaux qu'on connaît tous, mais qu'on a toujours du plaisir à retrouver. Le premier, là, c'est une petite photo qui est une spéciale dédicace, toujours pour Xavier. Dans le parc sont installés essentiellement, du côté de l'allée de la Reine, il y a quelques nichoirs qui sont installés, des nichoirs mésanges, à mésange bleu ou à mésange charbonnière. Et vous pouvez peut-être vous demander pourquoi, à quoi ça sert d'avoir installé des nichoirs dans un site dans lequel il y a énormément d'endroits pour nicher pour les oiseaux. Et en fait, ça, c'est parti aussi d'une réflexion où de plus en plus on a des arbres qui sont malades ou des arbres qui ne supportent pas bien le réchauffement climatique. Or, les oiseaux cavernicoles, ceux qui ont besoin d'une petite caverne pour se nicher, pour se reproduire, eh bien, ils ont de moins en moins de gîtes. On va voir qu'il y a un effort énorme qui est fait par le parc de Marly dans sa gestion pour garder debout les arbres morts, le bois mort ou couché. On s'aperçoit que le bois mort est rempli de vie, en fait, et que le bois mort ou les arbres morts donnent des gîtes impeccables à plein d'oiseaux. Aujourd'hui, le fait de plus avoir la possibilité de garder ce bois mort, parce que y a des questions de sécurité quand on se promène dans le parc et ainsi de suite, on peut éventuellement le compenser en mettant des gîtes comme ça, qu'on accroche à une certaine hauteur, dans un certain sens, et ainsi de suite. Et puis, régulièrement, avec Xavier, on fait le tour. Enfin, c'est surtout lui qui fait le tour, et il regarde si c'est habité. Et la bonne nouvelle, c'est que tous les gîtes qui ont été posés en pleine nature, alors qu'on aurait pu penser que il y avait tout ce qu'il fallait ailleurs, ils ont été occupés. Ils présentent un avantage ces mésanges. Elles préfèrent aller là, elles ont choisi ce lieu-là. Donc c'est un petit clin d'œil sur le fait que c'est aussi un outil pédagogique quand il y a des classes ou des enfants qui vont se promener. Si on est aux bonnes périodes, on va voir rentrer et sortir les mésanges, si on fait un peu attention, et on va les voir faire jusqu'à 400 allers-retours pour... Dans la journée pour nourrir leurs petits, c'est un spectacle assez fabuleux, moi je trouve. Une autre photo que je voulais vous montrer, c'est qu'on parlait de mésanges. Là, c'était une mésange charbonnière sur l'étape d'avant. Là, on est sur une mésange bleue. C'est des petites mésanges qu'on entend assez facilement. Vous la verrez sans problème chez vous même. Il suffit qu'il y ait un petit peu, pendant l'hiver, de graines sur une mangeoire, ou alors des fleurs et des arbres fruitiers. C'est un oiseau qui rend un service énorme. Il mange énormément de chenilles et il mange en particulier les chenilles processionnaires. Ça ne lui fait absolument rien, il s'en régale. À tel point qu'on met des sacs en plastique sur les. Vous savez, on met des pièges sur les pins. Voilà. Et les gens qui ont conçu ces sacs ont un peu des problèmes, ils sont obligés de les faire opaques maintenant, parce que les chenilles qui voyaient ça dans les sacs transparents perçaient les sacs pour aller piquer les mésanges, pardon, qui perçaient les sacs pour aller piquer les chenilles. Je vous ai montré deux mésanges, on ne va pas les voir toutes, mais il y en a voilà, une autre mésange qu'on voit souvent dans le parc de Marly, qu'on entend et qui a un chant un petit peu différent des autres, c'est la mésange huppée, avec son air un peu punk, sa huppette. Et là, elle n'est pas contente du tout, elle dresse sa huppette parce que je suis sans doute approché un petit peu trop près de la cavité dans laquelle elle est en train de piquer du bois mort pour tapisser le fond de son lit. Ça a été pris il y a 10 jours, cette photo, et donc on est en pleine période de fabrication des nids, là. Les couples sont déjà formés et les lieux pour mettre des nids sont déjà repérés. Il y a le visiteur... Que vous entendez tout le temps, partout dans le parc. Là, il n'y a pas de milieu préférentiel pour cet oiseau, le rouge-gorge. Et il est effectivement en train de chanter son chant mélancolique qu'on reconnaît ou auquel on finit par s'habituer et qui présente une particularité, c'est qu'il chante, il s'arrête pendant 6 ou 7 secondes et il recommence une autre mélodie, différente, mais dans les mêmes tons, avec une imagination, une interprétation... assez justement mélancolique, on peut dire joyeuse aussi, il y a des gens qui trouvent ça plus ou moins triste, mais voilà. Petit oiseau qu'on voit assez facilement, je ne sais pas si tout le monde l'a repéré dans le parc, mais on le voit aussi dans les jardins. Je m'arrête alors ça c'est une photo qui a été faite il y a 3 ans dans le parc, du côté des chasses, il y a un endroit où il y a des murs avec du lierre, beaucoup de lierre. Et là, je voulais vous montrer cette photo. Elle a été faite en plein hiver. On voit un merle qui est en train de manger du lierre. Et il mange les baies du lierre qui sont juste en dessous. Et le lierre, je vais faire un petit plaidoyer pour le lierre. Le lierre, il y a beaucoup de polémiques pour savoir si ça abîme ou si ça n'abîme pas les murs. Le lierre n'a pas vocation d'abîmer les murs ni les arbres. Il ne les parasite pas. Il monte dessus et il s'en sert dans sa troisième vie. Il a une première vie dans laquelle le lierre rampe, puis tout d'un coup il trouve un endroit où il peut monter, il va monter, que ce soit un mur ou un arbre, et il va recouvrir 75% de l'arbre sur lequel il monte. il dépassera jamais 75%. Les gens qui les ont observés, qui ont photographié ça, ils s'aperçoivent que l'arbre reste à 25%. Il a ses fleurs qui peuvent aller chercher de la lumière et il reste simplement un support pour le lierre. Et le lierre, il ne rentre pas, il ne prend pas la sève de l'arbre, il est simplement ventousé. Voilà. Et il se ventouse aussi sur l'arbre, sur les murs des maisons ou des bâtiments sur lesquels il peut aller. Et là, à cet endroit-là, au moment où il est ventousé et qu'il est bien fixé, il va se mettre à se déployer et à faire des fruits. Et il fait ses fruits en hiver. C'est-à-dire que c'est l'arbre la plante la plus intéressante pour les oiseaux migrateurs. Il est très important de laisser du lierre, de laisser beaucoup d'endroits où on a du lierre, parce que les oiseaux migrateurs vont se retrouver là pour pouvoir manger dans leur pause migratrice, et ils savent où sont les buissons de lierre. Et on retrouve régulièrement, en particulier les grives movices, tous les oiseaux migrateurs qui vont venir là. Et pourquoi le lierre fait ça? Parce qu'il a une stratégie de reproduction qui est tout à fait intéressante. Il est le seul à être mangé pendant l'hiver, ou quasiment, et par des oiseaux migrateurs. Donc il va faire des kilomètres dans l'estomac de l'oiseau avant d'être réparti quelque part dans un petit sac fécal tout à fait sympa pour pouvoir prendre de la croissance. Et le lierre a cette stratégie-là. Il y a beaucoup de littérature sur le lierre. Je vous recommanderai tout à l'heure une revue que sans doute beaucoup d'entre vous connaissent, qui s'appelle La Hulotte, où il y a deux numéros complets sur le lierre, où il est allé chercher, il cite toutes les études qu'il a faites, et il raconte en particulier ce qui se passe dans les pays anglo-saxons. En Angleterre, le lierre est protégé sur les bâtiments. Ils se sont aperçus que ça coûtait moins cher de laisser le lierre maintenir les bâtiments qui étaient en bon état, plutôt que d'essayer de l'arracher régulièrement. Et en Allemagne, ils ont fait des études pour voir à quel point le lierre pouvait rendre des services écosystémiques, c'est-à-dire que le lierre régule la température. Les murs ont moins d'écart de température entre l'été et l'hiver, c'est régulé, c'est atténué par le lierre. Et le lierre, il a une autre faculté, c'est qu'il a ses feuilles assez noires et il va capter énormément de dioxyde de carbone. Il fixe le dioxyde de carbone le long des routes. C'est pour ça que vous verrez souvent du lierre qui est tout à fait bien vivant le long des autoroutes. Ça va permettre de dépolluer et de prendre ce dioxyde de carbone et de le mettre dans la terre, le fixer avec les racines. Pendant ce temps-là, les oiseaux, ils s'y régalent. Et l'été, c'est un fourmillement d'insectes, de petits arthropodes, de lézards, et ainsi de suite. C'est un endroit idéal pour se cacher. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi, et l'été et l'hiver, il y a des feuilles tout le temps. C'était un petit plaidoyer pour le lierre. À chaque fois que vous êtes photographe animalier, vous avez très envie d'attendre que la grive ou l'oiseau passe et pouvoir faire une photo où il est juste en train de grignoter. Un autre plaidoyer important, on parle beaucoup aujourd'hui, peut-être que vous avez entendu ça, on parle des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts. Autrefois, on appelait ça des nuisibles, et maintenant on appelle ça une espèce susceptible d'occasionner des dégâts, ce qui permet au préfet de chaque département de fixer éventuellement des droits de chasse, d'abattage, on appelle ça de régulation, sur certaines espèces. Donc il y a des oiseaux, bien sûr, comme le geai, mais il y a aussi le renard, qui sont des... Voilà, Alors, comment on déclenche ça? C'est le préfet, il se débrouille avec les gens qui vont venir le voir, et il va dire, on a eu tel niveau de dégâts, tel montant de dégâts, donc il prend sa calculette, il a une calculette spéciale, personne ne sait comment elle marche, vraiment, mais... et il décide qu'on va pouvoir abattre 200 geais des chênes ou 2000 geais des chênes. Donc l'abattage est organisé et effectué par les chasseurs. Et donc voilà une espèce qui est chassée. Et un petit clin d'œil, vous voyez qu'il est en train de gober un gland. Cet oiseau s'appelle le geai des chênes. C'est un corvidé, c'est un passereau de la famille des corvidés. Et il est du groupe des corvidés, pardon. Et ça, contrairement aux autres corvidés, il est très coloré. Et on le repère bien comme ça. Il a deux ou trois fonctions. Sa première fonction, c'est d'être l'alerte de la forêt. C'est-à-dire qu'il a l'œil sur tout, comme beaucoup de corvidés. Mais dès qu'il y a une chouette, dès qu'il y a un rapace, il va donner l'alerte, il va le poursuivre, il va le taquiner, il va lui piquer les plumes de la tête. Ils sont assez taquins et enquiquinants avec les rapaces. Une fois qu'il a fini de donner l'alerte, il va prendre le temps de regarder ce qui se passe aussi, et il va manger, il va stocker des glands. Et on a fait, les naturalistes ont fait des calculs, c'est le meilleur moyen d'expliquer pourquoi un arbre sur trois en France est un chêne. Les jets des chênes prennent, pour prévoir l'hiver, des glands comme ça, un peu comme les écureuils, hein, et ils vont les planquer à certains endroits. On a des études maintenant tout à fait poussées qui nous montrent qu'ils se souviennent très très bien des endroits où ils ont planqué les glands. Si on essaye de les déplacer, ça les perturbe. Ils se piquent les glands les uns des autres. Ils observent qu'il y en a un qui a fini de remplir. Hop, la cachette. Le plus malin, il va chercher tout ce qui a été fait. Il le met dans une autre cachette. Il y a tout un jeu qui se passe comme ça et qui est fait pour, ben, tout simplement pour prévoir l'hiver parce qu'il y a une source de nourriture, de tanin très importante dans le gland. Sauf que ben, l'hiver, il n'est pas forcément aussi fort que prévu. Et ils vont laisser, effectivement, enterrer à plein d'endroits dans la forêt des glands qui vont redonner des arbres. Et aujourd'hui, on est en train de calculer comment on peut replanter des milliers d'arbres, ou des millions, je ne sais plus comment, quel chiffre. Et en fait, on a encore là un service écosystémique, j'aime pas tellement ce mot, mais on a encore un service qui peut nous être rendu par la nature gratuitement, en laissant simplement se propager les jets et en les laissant gober et aller enterrer des glands de chêne. Petite anecdote quand même, effectivement, le jet des chênes, il est complètement opportuniste, comme tous les corvidés. Donc on parle d'oiseaux opportunistes quand ce sont des oiseaux qui arrivent à manger aussi bien des insectes que des fruits, que éventuellement des charognes, ou de tuer, d'être prédateurs pour alors, des œufs ou éventuellement des lézards. D'accord. Et donc cet oiseau-là, effectivement, il a ce rôle-là. Donc si tout d'un coup, au lieu de lui donner des glands, on essaye de le nourrir ou on lui montre des beaux vergers avec plein de pêches ou de pommes, et ainsi, et bien, il va être ravi de pouvoir manger ça en attendant d'aller stocker des glands ailleurs. Mais c'est pour ça que tout d'un coup, il va nous poser un problème et on va se dire ben, il faut s'en débarrasser, on va chiffrer combien ça nous coûte au niveau du nombre de pommes qu'il peut manger et on va demander une régulation au préfet. Mais on est encore en train de travailler à l'envers, c'est-à-dire que plutôt d'essayer de protéger cet oiseau et de comprendre comment il marche et de chiffrer tous les services qu'il nous rend, on regarde en quoi il nous atteint. Et c'est ça qui fait le prix qu'on mettra sur la fiche Wanted. Voilà un oiseau qui est aussi assez, assez intéressant quand on se penche. Vous l'avez tous vu en vous baladant dans le parc. C'est la bernache du Canada. La bernache du Canada est un oiseau qui n'est pas du tout local, mais c'est un oiseau qui a un côté tout à fait opportuniste, par contre, au sens où ils se sont complètement adaptés à nos climats très sympas par rapport au froid qu'il fait au Canada. Ils n'ont même pas besoin de migrer quand ils sont en France. Quand il y a un petit peu de neige, ça leur rappelle les vacances. Donc il n'y a pas de souci, mais voilà. Et ils vont être embêtés à un moment donné si la surface de l'eau gèle. Où effectivement, il faudra qu'ils trouvent un autre moyen d'aller chercher à manger. Ils vont manger dans l'herbe autour, mais ils vont être tout à fait capables de descendre. Alors, ils font beaucoup de trajets. Vous les avez vus, vous avez peut-être entendu passer au-dessus de chez vous. Si vous êtes passé sous un vol de bernache, c'est incroyable. Là, on voit un oiseau qui fait presque... Alors, il fait entre 1,5 kg et 2 kg. Et il a une envergure d'aile qui fait presque 1,80 m. C'est un oiseau qui fait beaucoup de bruit quand il passe au-dessus de nos têtes, qui n'a pas beaucoup de prédateurs, si ce n'est que ses petits peuvent se faire... Les œufs peuvent se faire manger, boulotter par des fouines, des renards, éventuellement. Mais l'idée, c'est que là, les petits peuvent être attaqués, mais ils sortent, ils sont relativement gros. Il n'y a pas beaucoup de rapaces qui vont pouvoir bouffer les petits de la bernache. Et elle se porte très très bien. Les premières qu'on a vues dans la région s'étaient acclimatées en suivant la Seine. Elles étaient à Bougival. Et puis petit à petit, elles se sont déployées dans le coin et elles sont montées. Alors c'est un oiseau, effectivement, c'est une espèce exotique. Elle n'est pas spécialement envahissante par rapport au jet des chênes. Elle mange très peu de choses qui embêtent les hommes, même si bah, y a de plus en plus de bernaches. Un autre oiseau que je voulais vous mettre pour finir un peu cette série des oiseaux sympas qu'on voit facilement. J'étais en Bretagne hier, on peut croire que c'est une photo. Et quand j'ai préparé ça, je me suis dit, tiens, je vais quand même mettre une photo de la Bretagne, c'est sympa. Donc c'est un grand cormoran, un oiseau typiquement de mer. Et là aussi, et cette photo, elle a été prise sur le bassin il y a une dizaine de jours aussi, peut-être un peu plus. Donc le grand cormoran est un oiseau qui est un oiseau qui s'adapte extrêmement bien. On parle d'espèces en voie de disparition et ainsi de suite. Le grand cormoran a développé une chose particulière, c'est un des 3 ou 4 oiseaux de mer qui réussit à manger du poisson qui ne soit pas du poisson d'eau salée. Et donc ça va lui permettre de faire deux choses. Ça va lui permettre de s'affranchir du risque de nidifier sur les côtes, même les côtes bretonnes, où il pleut tout le temps, mais surtout dans les côtes où il y a des risques de ressac, la mer qui monte, et ainsi de suite. Les rochers, c'est pas très accueillant pour faire un nid. Donc lui, il va s'être habitué à nicher dans les arbres, parce qu'il va se mettre dans les terres, là où il y a des arbres, au-dessus d'un étang, et il va pouvoir faire des colonies d'oiseaux, comme le font beaucoup d'oiseaux de mer, et il va se reproduire comme ça. Et puis, quand il aura marre, quand il sera trop... il aura épuisé le poisson, et éventuellement, il ira ailleurs. Par contre, ça veut dire qu'il trouve quelque chose à manger dans le parc de Marly. Ça peut être des batraciens, ça peut être effectivement... alors lui, il va manger essentiellement des oiseaux, des poissons, et des batraciens. Voilà le petit clin d'œil du grand cormoran, un oiseau donc, sur lequel on est en train de faire plein de recherches, et c'est très intéressant. Comment il réussit à s'adapter aussi bien à l'artificialisation des sols, au développement de l'être humain sur la planète, et lui, il suit, et il a repéré très très bien comment marche l'épiciculture, il sait très très bien éviter les filets. Alors il se fait avoir quelques fois, mais c'est vraiment... Un oiseau très, très 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 adaptable. Les dernières recherches montrent que, vous savez, on dit souvent que les cormorans, ils sont en train de sécher. Donc une fois qu'ils ont mangé, ils sont en train de sécher. On s'aperçoit qu'en fait, ils sont secs assez vite. Les plumes des oiseaux, c'est de la kératine. Donc c'est comme les ongles. Les ongles ou les cheveux, une fois qu'on a enlevé l'eau, c'est sec. Ils sèchent effectivement, mais surtout, ils mettent leur estomac face au soleil. Ou en tout cas, ils se protègent des vents dominants par rapport à leur estomac. Ils mettent l'estomac un petit peu en avant. Et ben, comme nous, quand on a bien déjeuné, en fait, ils font chauffer leur bol alimentaire. C'est-à-dire qu'on a compris qu'aller pêcher des poissons dans le fond de l'eau, ça présentait un problème de consommation d'énergie pour cet animal, pour tous les animaux, parce qu'il remontait quelque chose de très froid, qui balançait dans leur estomac, qui était quand même à une température assez élevée. Les oiseaux, ça peut aller jusqu'à ça a des températures intérieures à 40 degrés ou à 42 degrés, des oiseaux de mer. Donc ils se protègent du froid grâce aux plumes, mais quand ils ont avalé quelque chose de froid, ça va être compliqué de le digérer vite, ça va demander de l'énergie. Donc en se mettant face au soleil, surtout avec un plumage noir, ils vont se chauffer, et manger plus à digérer plus rapidement. Et donc ça, c'est des études, on n'arrête pas d'apprendre des choses sur les oiseaux. Vous verrez un bouquin qui s'appelle « Habiter en oiseau » qui est sur la table qui vous est proposée, où il y a beaucoup de réflexions ethnologiques et de philosophie. On comprend de mieux en mieux, en observant la masse des oiseaux, ce qui se passe. On voit qu'ils diminuent, on voit qu'il y en a de moins en moins, on voit qu'il y en a qui s'adaptent. Et en regardant, on commence à mieux comprendre, à mieux s'intéresser, en s'intéressant aux espèces. À tel point qu'on verra que cette passion finit par arriver à une reconnaissance même de certains spécimens, de certains individus. Il y a des gens qui y arrivent, enfin, je rencontre régulièrement des gens qui me disent « C'est mon rouge-gorge, il vient sur ma bêche, dans mon jardin ». Et c'est tout à fait possible que le rouge-gorge soit habitué à cette personne-là, qu'elle ait repéré les horaires où elle va dans le jardin, et que le rouge-gorge, comme tous les oiseaux, il va être très opportuniste. Ça rigole pas chez le rouge-gorge. Donc là, quand il a repéré un endroit où quelqu'un qui retourne à terre, il va avoir beaucoup de protéines d'un coup, plutôt que de picorer une petite pomme dans un coin, tout d'un coup avoir un boost de protéines avec un ver de terre, avec des larves de hanneton, et ainsi de suite. Merci aux jardiniers. Voilà. Je voulais faire ce petit tour. Alors, il y a plein d'autres oiseaux qui sont assez communs ou assez rigolos à regarder dans le parc. Je voulais m'arrêter 2 secondes sur quelques champs d'oiseaux. C'était un petit challenge qu'on s'était fixé avec Béatrice. Je ne sais pas si vous reconnaissez cet oiseau. C'est un c'est le pivert. Hein. Et l'idée, c'est que... alors, je ne voulais pas le faire comme ça, mais c'est pas grave. C'est parti de tout ça. L'idée, c'est que... je vous fais écouter le chant du pivert. Simplement, je vous invite à vous dire dans votre tête à quoi ça ressemble. parce que la balade, les prochaines balades, celles que vous allez faire demain matin, en sortant, je pense qu'il n'y en aura plus. Mais il faut que vous ayez ça, au moins que vous repartiez avec ça. En plus, on en profite, c'est gratuit, pour toujours reconnaître le pivert. On va l'écouter une seconde. Je ne vous dis pas à quoi ça me fait penser, on partage après. C'est assez simple, hein. L'enregistrement n'est pas fini, je vous donnerai des adresses des sites. Il existe un site qui s'appelle Xenocanto, sur lequel vous pouvez retrouver les chants de tous les oiseaux du monde. Et vous pouvez les garder, les télécharger, vous pouvez les échanger, à condition de ne pas les utiliser à service commercial. Donc là, on entend, ça c'est ce qu'on appelle le chant. On trouve ça plus ou moins harmonieux, les musiciens sont plus ou moins déçus. Je crois qu'il a fini. Il chante trois fois avec des espaces assez séparés. Je ne sais pas à quoi ça vous fait penser, mais... Voilà. Ouais. Alors, il y a plusieurs interprétations. Mais... Là-devant, on nous dit un enfant qui rigole. Une mouette. Mais on a vraiment l'impression que qu'il est en train de se foutre de nous. Quoi. On est en train de chercher par là et il est mort de rire derrière. Quoi. Donc, ce rire-là, vous allez l'avoir... Absolument, enfin, il y a d'autres oiseaux qui peuvent effectivement l'imiter. On a parlé du jet des chênes tout à l'heure. Le jet des chênes imite le pivert, il imite la chouette hulotte, il imite les cris, il imite simplement pour agacer tout le monde. Il gère son petit monde, c'est un caractère. Le pivert, un rire, on a l'impression qu'il rigole, qu'il se moque de nous. Il y a un autre oiseau qu'il faut que vous connaissiez absolument pour. Alors, je ne sais pas si vous reconnaissez cet oiseau. Il s'agit d'un pigeon ramier. Donc, il existe plusieurs types de pigeons, mais ce pigeon ramier, il se caractérise parce que quand vous allez le voir se balader partout, quand il est posé, on voit sur son cou, sur le côté, une tache blanche. C'est le seul qui a une tache blanche. Les autres ont des taches vertes ou mordorées, ou pas de taches. Et quand il va voler, on ne le voit pas sur cette photo, bien sûr, il a des bandes alaires. Ce qu'on appelle des bandes alaires, c'est des... Quand il ouvre les ailes, des traits de couleur qui sont blancs. Et donc on va voir très nettement, c'est le seul qui aura des bandes alaires blanches, c'est-à-dire en vol, on voit les ailes barrées de blanc. Alors lui, il a un chant aussi, donc ça c'est le deuxième qu'il faut absolument que vous reteniez pour... que dans le parc. Et par contre, on en a beaucoup dans le parc. Il y en a un qui répond de l'autre côté, là. On est vraiment sur l'âge. Je vais arrêter le chant. Oui, j'ai raté. Là, je ne sais pas ce que vous avez en tête comme chant, mais tous les pigeons ont à peu près les mêmes roucoulements. Et par contre, on va, enfin, c'est dans les cours d'ornitho, on va vous proposer de retenir une phrase. Voilà. Il a un certain nombre de syllabes dans sa phrase. Et c'est toujours les mêmes. Quelquefois, il ne va pas jusqu'au bout, ou quelquefois, il commence en cours de route, mais quand il les enchaîne, on a vraiment quelque chose, il n'y a pas du tout d'imagination, contrairement au rouge-gorge, et ainsi de suite. Et on a la petite phrase qu'on dit souvent quand on est avec les enfants, et avec les adultes aussi, moi que j'aime bien utiliser, c'est « viens boire un coup, tonton ». Et on entend de l'autre côté le gars qui répond « Viens boire un coup, tonton ». Tout le monde est en train d'essayer d'attirer tonton pour qu'il vienne boire un coup. Et si je vous remets le chant, je vous propose de garder cette phrase-là. Il peut y en avoir d'autres. Hein. Je ne sais pas s'il y a des ornithos dans la salle. Il y a plein de gens qui ont d'autres phrases. Et moi, j'étais élevé à « Viens boire un coup, tonton ». côté de la forêt. Alors il y en a qui sont plus ou moins... Voilà, je vais l'arrêter là. J'arrête là, mais bien sûr, vous donnerai des liens pour aller rechercher des chants. Il peut y avoir des petites variantes, et ainsi de suite, ils ont toutes leurs personnalités. Il y a celui qui commence simplement à chanter parce que c'est le début du printemps, celui qui chante depuis des années, c'est son premier printemps, pardon, celui qui chante depuis des années et qui est au milieu de l'été. Ils se répondent comme ça. Quand on se balade en forêt, vous avez déjà deux oiseaux que vous pouvez identifier ce soir sans avoir à les regarder, à les voir. En particulier le pivert. Le pivert, c'est le pic qui est pas simple à voir. Il est très flashy quand il passe. Mais il a cette attitude-là d'être souvent dans la pelouse. Il se nourrit beaucoup, beaucoup de fourmis et de larves de vers de terre éventuellement. Mais surtout, il adore les fourmis. Il s'ennuie de fourmis. Dès qu'il repère des fourmilières, il creuse dedans et se gave de fourmis. Et les fourmis, on comprend, il se roule dans les fourmis. Il finit par avoir l'odeur de la fourmi et les fourmis finissent par lui fichent la paix. Alors quelquefois elles se défendent et on peut avoir des pivers qui restent bloqués dans la fourmilière et ils se font bouffer par les fourmis. Chacun son dos. J'avais une petite digression à faire sur les pigeons parce que vous avez maintenant effectivement en haut j'ai remis le pigeon ramier avec sa tache blanche sur le côté. On a ici le pigeon bisé. Le pigeon bisé, c'est le pigeon domestique maintenant. On appelle ce type d'espèce une espèce férale. Et c'est le pigeon dans lequel on donne des coups de pied à Paris pour voir, quand on est gamin, pour voir s'il s'envole vite ou pas. C'est les pigeons. Alors là, pour le coup, lui, on ne le voit pas très bien sur la photo de loin comme ça. Il a une tache verte, comme son copain, le pigeon colombin. Il a des plumages qui vont être beaucoup plus variés à cause des reproductions qui ont été faites par les hommes. Éventuellement, on va en voir qui sont tout blancs. Mais il a une caractéristique, c'est qu'il a l'œil rouge et le bec noir. Alors que le pigeon colombin, qui reste un pigeon encore sauvage, il a des petites bandes alaires, là on les voit, elles sont petites et noires. Et il a toujours, toujours ce contraste-là. Alors que celui-ci, il va avoir des contrastes, ça peut aller jusqu'au blanc complet. Vous savez peut-être que le blanc, en fait, c'est les plumes sont blanches naturellement. Les plumes à l'état le plus simple, c'est de la kératine, et la kératine, c'est blanc. Et voilà, les oiseaux s'amusent à les teinter, soit avec des enzymes qui viennent de la carotte. Et du coup, ils arrivent à fabriquer de la couleur avec deux solutions. Soit ils mangent des choses qui vont apporter du orange, du rouge à leur plumage, et ils vont le stocker à certains endroits dans les plumes pour pouvoir paraître les plus beaux, soit ils vont jouer sur la réflexion de la lumière. Et quand ils vont jouer sur la réflexion de la lumière la plus intense qu'ils peuvent obtenir, c'est le bleu. Le bleu étant la réflexion de l'azur. Et donc, en construisant leurs plumes d'une certaine façon, ils vont nous donner l'impression qu'on est en train de voir du bleu, ou des couleurs comme celle-ci, des couleurs où ils ont mélangé effectivement de la couleur, ils ont acquis... ils ont teinté leur kératine ou ils ont effectivement mélangé avec des réflexions de plumes. Donc il y a des milliers de combinaisons possibles. Le vert, par exemple, il y a un oiseau qui mange des substances qui le rendent vert, mais à part ça, il est fabriqué avec du jaune et des reflets bleus. Petite fin, simplement, ce pigeon-là, le pigeon colombin, on en voyait de moins en moins, il commence à revenir de plus en plus sur la région parisienne, et on en voit maintenant dans le parc de Marly. Cette photo-là, elle a été prise sur une extension du parc de Marly, qui est le lac-duc de Louveciennes, et à l'intérieur, il niche sans doute, et il niche, et il a dû mourir des dizaines et des dizaines de pigeons. Ce pigeon-là, petit plaidoyer pour ce pigeon-là, autrefois, quand on avait des pigeonniers, c'était un signe de noblesse en France. Aujourd'hui, dans certains pays d'Afrique du Nord ou en Inde, avoir des pigeons, c'est encore une richesse. Les pigeons, ça permet d'avoir de la viande si on en a besoin. Et ça permet, parce que ça fait des fientes, d'avoir quelque chose pour engraisser le potager, pour enrichir la terre. Et donc, les pigeonniers étaient construits autrefois exprès pour effectivement que les fientes des pigeons soient collectables à l'intérieur. C'était une vraie richesse. Les gens qui avaient des pigeonniers, vous passez dans des coins de France où on a conservé encore ces pigeonniers. C'est un vrai patrimoine. Sauf que on est passé aux engrais chimiques, on a trouvé d'autres solutions plus simples que d'aller ramasser cet engrais, encore une fois gratuit, mais que nous donnaient les pigeons. Enfin, les pigeons sont des animaux extrêmement fidèles et on n'a toujours pas encore bien compris, on se doute de plus en plus, qu'est-ce qu'ils ont dans le cerveau qui font que quand on prend le mâle et qu'on l'emmène à 600 km de la femelle, qu'on lui met un petit message à la patte, il ramène le petit message à sa femelle. Les pigeons voyageurs. Donc ces pigeons bisés, ils avaient au moins ces trois intérêts pour les gens qui voulaient faire la communiquer avec les pigeons, pour les gens qui voulaient les manger et pour les gens qui voulaient de l'engrais. On voit encore sur certains toits de Delhi, j'étais stupéfait. Vous êtes dans une ville où il n'y a absolument pas de. On voit pas les. Et tout d'un coup, on voit monter sur le toit, le soir, des gens qui font tourner des plaquettes de bois au bout d'une ficelle, et ils rappellent leurs pigeons. Et leurs pigeons viennent chez eux, et ils s'assiedent, et hop, ils referment. C'est leur richesse sur les toits de Delhi. Ça existe aussi en Égypte. Je ne voulais pas entendre les autres chants, ils ne sont pas simples à retenir, mais ils sont. Je voulais vous faire entendre un chant, un autre chant, je vous propose celui-là. Écoutez la structure. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent déjà. L'arrête. C'est un chant strident, très sonore, qui porte énormément. On a affaire à un oiseau qui se perche, la photo le symbolise un petit peu, mais qui se perche très haut en cette saison. C'est vraiment la saison mirifique pour cet oiseau-là. Avant de vous dire son nom, je voudrais que vous souveniez dans la structure du chant. En fait, on a un oiseau qui part dans tous les sens. Il nous fait des phrases comme ci, comme ça, avec des roulements, avec des cris, avec. Et il les répète deux ou trois fois. Quelquefois, il ne la répète pas, mais vous allez voir, si on. Là, pour le coup, pour reconnaître les chants d'oiseaux, il faut prendre son temps, parce que la qualité de la phrase a quelque chose à nous dire. Il chante, il a des intonations de merle, et il ressemble beaucoup à d'autres grives, à la grive de renne. Sauf que la grive de renne, elle chante une fois son refrain, et elle passe à autre chose. Là, la grive musicienne, puisqu'il s'agit d'elle, la grive musicienne, vous allez l'entendre dans le parc partout. On la voit difficilement, mais par contre, vous savez que vous avez croisé une grive musicienne parce que si vous vous arrêtez deux minutes, vous plantez les pieds dans le sol, vous fermez les yeux, vous allez entendre cette répétition, je vous le remets, qui est caractéristique. Il n'y a pas beaucoup d'oiseaux qui sont comme ça. Donc, improvisateur et en même temps répétiteur. On a un bon client quand même pour les répétitions. Donc le premier, le pivert, il rigole. Le deuxième, il propose à son oncle de venir boire un coup. Le troisième, on est avec un oiseau improvisateur, un chant puissant, on l'entend de très loin, et qui est par contre avec cette manie de répéter la plupart des phrases deux, trois ou quatre fois. Et voilà, vraiment. Vous pouvez y aller, vous pouvez épater vos copains et copines, c'est bon, c'est ça. Un autre oiseau avec un autre style, mais qu'on entend beaucoup, beaucoup là depuis quelques semaines. J'arrête la torture parce qu'il y a une voiture qui passe derrière. Vous verrez sur Xenocanto, ce site-là, à chaque fois, il vous précise si le chant est le plus pur possible ou s'il y a des bruits. Donc ça permet aux gens de dire, tiens, je cherche un bruit pour un film avec une voiture qui passe derrière. Ils l'ont. Mais c'est surtout, c'est pour dire, attention, la qualité par rapport à un chant peut être atténuée. Le chant de cet oiseau fait deux notes. Il y a deux ou trois façons de s'en souvenir, mnémotechnique, deux ou trois. Moi, ça me fait penser, je sais pas ce que vous en avez pensé. Ok, je vais rallumer la lumière parce que. Oui, c'est le Pouillot Véloce. Voilà. Lui, il est là toute l'année, alors que son cousin Pouillot Fitis ne vient que pour chanter, et quand il chante, le Pouillot Fitis, lui, il a une mélodie beaucoup plus sympa, et le Pouillot Véloce, il a que deux notes. Chif-chap, chif-chap, chif-chap. Les Anglais disent chif-chap, ils l'appellent comme ça, un chif-chap. Et les Anglais l'appellent le compteur d'écu, parce qu'on a l'impression qu'ils envoient une pièce, pièce par pièce, comme ça. Compteur d'écu, c'est un autre moyen de s'en souvenir. Et enfin, moi, ça me fait vraiment penser à un jouet mécanique, vous savez, vieux jouet mécanique rouillé, où il y avait des espèces de... Voilà, il se coinçait, il faut remettre de l'huile. Et bon, on l'entend, on apprécie. Et alors là, même chose, en ce moment, ça, vous l'avez partout, en fond sonore, de loin, de près, et ainsi de suite. Jean. Sur la fin, il accélère. Je l'arrête là, mais on a vraiment cet aspect mécanique. Voilà. Quelquefois, il va aussi, si vous vous en approchez, il va pousser un cri d'alarme. C'est une seule note qui remonte. Un tuit, tuit. Bon, on n'en est pas au cri d'alarme, mais quand vous progresserez pour reconnaître les chants d'oiseaux, souvent, les cris d'alarme rappellent, ont quelque chose d'intrinsèquement semblable au cri. Quelque part, les oiseaux, on pense que les oiseaux, dans leur cri d'alarme, disent aussi leur identité. Faites gaffe, les Pouillots Véloces, il y a un chat qui approche, et donc les autres Pouillots Véloces, ils comprennent que c'est un cri d'alarme pour eux. Là, on était vraiment avec une phrase hyper simple, et on va finir avec un dernier, comme ça on en aura cinq pour la balade de demain matin, si...
Pas demain, hein,
oui, c'est non mais vous avez quand même le droit de vous prendre demain matin. Pour essayer, pas. Je sais pas si c'est fini. Oui, il a fini. Donc là, on est sur un chant caractéristique de ce petit oiseau qui s'appelle le grimpeau des jardins. Je fais des dizaines de sorties. C'est un oiseau qui est très difficile à voir. Par contre, il est là dans la forêt de Marly. Vous en avez plein. Vous en avez dans les jardins, dans les vergers. C'est un oiseau qui va monter. Enfin, il part du bas de l'arbre et il monte en faisant le tour pour enlever. On appelle ça. Il a un bec d'échenilleur, il va aller chercher toutes les petites larves d'insectes, tous les œufs qui auront été posés, éventuellement les petits champignons, les petits spores, voilà, il s'en délecte, et il nettoie en fait les arbres, et là il est dans le lichen, il doit nettoyer le lichen. Et donc dans le moyen, il a toujours la même strophe d'attaque, toujours le même chant, éventuellement aussi lui il peut la couper au milieu, ou la commencer au milieu, et ça donne un petit air. Je monte au paradis. Il finit toujours par cette façon de faire. Donc il y a beaucoup d'ornithologues qui appellent ça « je monte au paradis ». On peut le réinterpréter. Vous pouvez trouver un autre mot. C'est le grimpeau des jardins. Grimpeau, G-R-I. Oui, pardon. Grimpeau des jardins. Il grimpe, voilà. Et donc il a un cousin qui s'appelle le grimpeau des bois, qui est vraiment très très... Enfin, ils se ressemblent énormément, et donc c'est un grand jeu entre les ornithologues de distinguer à la vue un grimpeau des jardins d'un grimpeau des bois. Et ils n'ont pas le même chant. Donc, sans, en fermant les yeux, en l'ayant repéré, on va avoir ce petit chant, cette petite ritournelle qui est toujours la même, un peu lassant éventuellement, mais c'est en ce moment, comme il chante pour attirer, signaler sa présence et marquer son territoire, c'est un vrai plaisir. On a fini l'enregistrement, mais je sais pas. Alors celui-là, là vraiment, si vous avez la chance de le retenir, c'est toujours, ça remonte à la fin. C'est voilà, c'est strident, c'est aigu, c'est pas très fort, c'est pas très sonore. C'est beaucoup moins sonore que la grille musicienne. Mais voilà, on a vu effectivement celui qui rigole tout le temps et qui peut être à l'autre bout du parc que vous allez l'entendre. C'est très sonore. Vous avez Viens boire un coup tonton, qui est beaucoup moins sonore et qu'il faut entendre, donc le pigeon ramier, qu'on appelle aussi plus couramment la palombe. Donc c'est cet oiseau qui est toujours chassé, voilà, et qui, depuis qu'on a interdit la chasse dans certains cols, alors la chasse reste autorisée, hein, mais il y a des cols qui ont été rachetés par des gens qui laissent passer les pigeons ramiers. Ce pigeon-là, sur les 20 ou 30 dernières années, il a augmenté ses effectifs. On en voit de plus en plus, d'environ 100%. On parle tout le temps des oiseaux qui déclinent. Celui-là, on l'a vu aussi avec le cormoran. On a des effectifs qui augmentent et il s'adapte. Le pigeon ramier, pardon, je suis en train de vous montrer. On a vu le chant de la grille musicienne, des répétitions. On a l'impression que c'est un oiseau qui essaye tout. Alors le plus rigolo, c'est quand vous avez deux grilles musiciennes qui se répondent. Alors là, c'est le concours pour savoir qui a la plus belle strophe, pour pouvoir, encore une fois, là c'est très très bien décrit dans le livre de Vinciane Després, Habiter un oiseau, pour pouvoir marquer son territoire. Qu'est-ce que c'est qu'un territoire? Nous, à une époque où on se pose plein de questions sur les frontières, sur qu'est-ce que c'est qu'un territoire? Comment un oiseau marque son territoire? Et la réflexion qui va derrière, c'est que ces territoires, ils sont complètement informels, et ça permet, Vinciane Després décrit les travaux de tous les ethnologues, on s'aperçoit en observant ça, que ben, on se disait, ben, ils viennent chanter le matin pour nous faire plaisir. Ben, pas du tout, ils ont quelque chose, ils avaient mieux à faire. On s'aperçoit qu'ils ont des organes qui ne sont pas du tout les mêmes, qu'on ne peut pas imiter le chant des oiseaux, ils ont un pharynx qui est, un larynx qui est complètement différent d'une autre, et ils ont cette capacité à chanter en continuant à respirer. Donc ça permet effectivement d'avoir des exercices sonores qui font qu'ils marquent un territoire qu'ils ont dans leur tête et qui va permettre, en particulier, on le voit pour les rouges-gorges, c'est assez facile à voir, deux rouges-gorges qui arrivent sur le même territoire, il va y avoir concurrence de chants, ils se répètent, ils s'écoutent, ils se répètent, ils s'écoutent, et à un moment donné, il y en a un qui craque et qui dit, bon, ben, l'autre, il a l'air d'avoir plus de vocabulaire, il a l'air de... Voilà, je vais limiter ma présence. Et finalement, petit à petit, la géographie des territoires se dessine. Si ça ne se passe pas comme ça, les rouges-gorges sont capables de se battre à mort. Mais c'est des cas très très rares, en fait, où ils vont se battre à mort parce qu'ils sont excités par le plastron rouge qu'ils portent, eux, et qu'ils voient, en fait, chez l'oiseau. Donc on a même des oiseaux qui se mettent à chanter en face d'une vitre, ils voient leur reflet, et ils finissent par voir que la vitre ne bouge pas. Donc ils foncent dans la vitre, ils s'assomment éventuellement, mais il faut que cet intrus parte. Donc là, voilà, pour les cas où les oiseaux se battent, c'est souvent un oiseau qui, les jeunes, qui n'ont pas bien compris qu'il y avait une règle du jeu, et ainsi de suite, et donc le territoire est facilement marqué. C'est très 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 intéressant de voir, on comprend de mieux en mieux cette géographie qui est complètement intellectuelle pour les oiseaux. Je voulais vous parler après de deux familles qu'on observera dans le parc. Et voilà, une famille qu'on observe assez souvent. Et là, j'ai pris cette photo-là juste en face du grand miroir. J'étais, voilà, et il était en train de scruter, ce faucon cresserelle était en train de scruter les petits animaux qui étaient en train de passer dessous. Donc, en général, il va chasser des mulots, des musaraignes, des petits rongeurs, ou éventuellement, il peut attraper des crapauds, des grenouilles. Et en ce moment, c'est le moment où les anours sortent, et donc il peut être tout à fait en train de les attraper. J'avais fait une photo plus vieille de faucon cresserelle, tout en haut du parc, près de la maison du gardien, tout en haut du tapis vert, près de la maison du gardien. Il y avait un site sur lequel, visiblement, on ne devait pas être très loin d'un nid de faucon. Et là, il me regarde d'un air de dire, là, attention, tu es en train de rentrer sur un territoire qui n'est pas le tien. Voilà, il n'a pas bougé, j'ai fait demi-tour. Et effectivement, je pense qu'il y avait quelque chose pas loin. Cet arbre-là, malheureusement, disparu.
Mais c'est
tombé avec la tempête. Pardon ?
Vous grossissez beaucoup ?
En fait, j'ai un téléobjectif qui me permet effectivement de... Et puis je suis pas un très bon photographe, contrairement à tout le monde. Je prends des dizaines de photos, puis il y en a une qui reste, qui est pas mal.
Et c'est
Là, je suis avec un objectif qui fait... celui-là, c'est encore le 150-600 mm sur un appareil photo qui est pas plein format. Et donc, du coup, ça fait l'équivalent d'un 800 mm à peu près. 800 mm, ça fait que...
Nous, on le voit pas à l'œil.
On voit 1 mètre à 100 mètres.
On voit à l'œil.
Si, vous le voyez à l'œil. Avec des jumelles ou avec une lunette comme ça, on le voit comme ça. Voilà. Surtout que quand il est en train de voler, celui qu'on a vu juste avant, c'est le fameux, on appelle ça le vol de Saint-Esprit. Il est capable de rester sur place, il bat des ailes et il a la tête qui tourne tout doucement. Il est complètement à l'aise pour repérer ses proies. Étonnant. Un autre oiseau que vous allez voir. Alors, celui-ci, je ne vais pas dire qu'on le voit, on peut le voir quasiment toute l'année et on peut le voir quasiment à toutes les balades qu'on fait en étant un peu patient du côté du tapis vert. Il va adorer chasser à ces endroits-là. Bon, si tout d'un coup il y a plein de chiens qui courent et ainsi de suite, ça va non pas le chasser lui parce qu'il s'en fichera des chiens et ça va mettre en alerte toutes les musaraignes et donc il aura plus de mal à les choper. Donc, il ira chercher fortune ailleurs. Il y a un oiseau qu'on voit très souvent, qui est là, je ne sais pas si vous connaissez cet oiseau, c'est la buse variable. On l'appelle variable parce que les couleurs de son plumage peuvent varier énormément. Et là aussi, ça dépend de ce qu'elle aura éventuellement, de son régime alimentaire, de la façon dont elle fixe ce qu'elle mange. Et donc, cette buse, on la voit régulièrement sur le parc. Là, voilà, j'ai fait une photo où elle est perchée, en train d'attendre qu'il y ait quelque chose qui passe à sa portée. Voilà, elle a des perchoirs comme ça. Quand vous avez repéré ces perchoirs, elle fait à peu près toujours le même cycle. Voilà. Et en ce moment, il y a un spectacle absolument merveilleux, si vous pouvez le choper à l'œil, c'est qu'on est en pleine parade nuptiale. Les buses montent, elles sont à deux, elles se regardent, éventuellement à trois quand il y a un concurrent. Et puis tout d'un coup, elle plie les ailes et elle plonge à toute vitesse. Et souvent, les rapaces, ils plongent, le mâle plonge sur la femelle et à la dernière minute, il l'évite. Des techniques de drague qui n'étaient pas recommandées par ma mère, mais chez la buse, ça marche. Et la buse, effectivement, elle a cette. Et ça, c'est des spectacles incroyables à voir si vous en avez l'occasion. L'autre chose qu'on voit souvent, c'est que les buses se font poursuivre par les corvidés, les corneilles. Et donc on voit la pauvre buse qui rame, sauf qu'elle est assez tranquille, et les corvidés qui plongent dessus, qui lui donnent des coups de pattes, des coups d'ailes, éventuellement des coups de bec quand ils y arrivent. Là aussi, il y a des petits spectacles sauvages. Vraiment plus sympa, sympa à voir. Une fois qu'on a identifié que c'était ça, c'est très marrant. Je vous montre un autre oiseau qui est assez rare dans le parc. Moi, j'ai mis très, 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 très longtemps à le voir. C'est le faucon obreau. Il est plutôt sur le haut à la fin de la plaine de Villevert, sur le haut du parc. Il niche visiblement, la photo a été faite à une époque de nidification, donc il niche visiblement sur le parc de Marly. Ce faucon obreau, il va nicher il va se stationner près de pièces d'eau. Il va se nourrir de libellules. Il va se nourrir aussi d'hirondelles et de martinets. Donc c'est un oiseau qui a une vitesse de chasse très importante. On le voit, il a la queue plus courte que le faucon cresserelle qu'on vient de voir, et il a les ailes beaucoup plus longues, en proportion, plus effinées. Plus on a les ailes longues et pointues, plus on va vite, en thermodynamique. Souvent, les oiseaux qui ont les ailes plus rondes, plus arrondies, sont des oiseaux qui vont être familiarisés à chasser dans les bois. Ils ont besoin de tourner rapidement. Donc le fait d'avoir tout d'un coup, de pouvoir déployer une masse importante, ça va leur permettre de tourner. Je voulais vous montrer un autre oiseau exceptionnel. Alors là, pour le coup, on est sûr qu'il niche juste à la limite du parc. Et alors, on a fait une sortie. J'étais avec Xavier, une sortie scolaire. On était en train d'emmener les enfants et ainsi de suite. Et tout d'un coup, je dis, ah, les enfants, regardez, on voit une buse là. Et en fait, c'était pas une buse, c'est une bondrée apivore. Il y a visiblement un couple sur le site du parc, à un endroit qui est pas accessible au public, je pense, parce qu'on l'aurait repéré depuis longtemps. Mais cet oiseau est un oiseau tout à fait particulier. Il se nourrit en mangeant des abeilles. Des abeilles, des guêpes ou des frelons asiatiques quand il y en a. Il y a pas mal de gens qui disent mais il faut élever plus de. Il faudrait mettre des nids, on ne sait pas trop bien quel nid mettre. Et c'est un oiseau qui est migrateur. Donc il pose un petit problème aux apiculteurs parce qu'il arrive un peu tard pour. Repérer et faire du mal au nid, parce que les nids de frelons asiatiques sont quand même vite cachés par le feuillage. Et donc, c'est un oiseau. Par contre, quand il tombe sur un nid de frelons asiatiques, il va le dépouiller complètement et il va l'ouvrir, l'éventrer. Donc, les frelons vont essayer de le reconstruire éventuellement. S'il le fait sur la fin de la saison, les frelons vont laisser tomber le nid. Et le fait de l'avoir ouvert, défoncé, ça va permettre éventuellement aux mésanges charbonnières. Les mésanges charbonnières mangent les larves des frelons. Et elles rentrent. Elles rentrent dans le nid, elles attendent. Et les frelons asiatiques, une fois que leur nid a été foutu en l'air, ils ne se défendent plus. On a observé qu'ils ne sont même pas en train d'en vouloir d'attaquer les mésanges. Il y a une espèce de déroute significative. Ils continuent à essayer d'aller entretenir un peu le nid. Mais... Et la bondrée apivore, elle va bouffer tout le pas le chien mais le tout le nid jusqu'à avoir éventuellement mangé ce qu'elle adore c'est les larves et elle a un plumage qui est en comme les écailles de poisson qui est en écailles de poisson elle le relève légèrement ce qui fait qu'elle ne craint pas les piqûres elle est ça n'atteint pas. Je vous ai mis à côté parce que demain matin vous êtes là vous dire bon comment on fait la différence entre les... La bondrée apivore, d'abord, c'est impossible à le voir, je vous le dis comme ça, mais elle est plus longue, elle fait 30 cm, c'est-à-dire 15 cm de plus d'envergure de chaque côté. Mais à l'allure générale, elle a la queue plus longue. En fait, là, si vous comparez la longueur de la queue de la buse avec la largeur de ses ailes, on est à peu près pareil. On a la même longueur. Alors que sur la bondrée, la largeur des ailes, on a l'impression qu'elles sont plus fines, mais surtout, elles sont un peu plus longues, un peu plus effilées, et la longueur de la queue est plus longue. Bon, alors là, déjà, il faut qu'elle s'arrête, qu'elle prenne la photo. Deux indices pour terminer. On a l'impression que la bondrée apivore, elle a une tête de pigeon. Elle a une tête avec un petit bec. Elle n'a pas besoin d'un énorme bec pour déchirer ses proies comme la buse. Elle a besoin d'un bec pour attraper des insectes. Et dernier truc, c'est que sur la queue de la buse variable, on a des stries. Alors que là, on a une barre finale et une, deux, voire trois barres, suivant qu'on a affaire à des mâles et des femelles. On a un plumage qui est beaucoup plus en damier noir et blanc, partout sur le corps, alors que là, on a des taches brunes, et ainsi de suite. Donc... Là, je pense que je vous ai donné tous les indices pour l'interro de demain. La buse variable fait à peu près 1,50 m. Alors, ça dépend. 1,50 m d'un bout de l'aile à l'autre, quand elle est déployée.
Et l'autre,
elle fait 1,80 m d'un bout à l'autre. Alors, je dis, quand vous regarderez les guides ornitho, ils donnent toujours deux tailles. Souvent, sur les rapaces, les femelles sont plus grosses que les mâles. Sont plus véloces, sont plus importantes, parce que c'est elles qui portent les œufs. Donc elles vont avoir effectivement plus avoir besoin de plus d'énergie. Elles vont le stocker dans leur corps, elles sont plus grandes. Souvent, dans le vieux français, vous trouverez... on va parler de... Quand on parle de certains faucons, on a des faucons où on a des tiercelets. Les tiercelets, c'est en fait les mâles qui ont un tiers de moins que la femelle. Ça donne une idée, les poids. Donc, quand vous voyez les envergures, souvent, c'est les envergures comparées, estimées, du mâle et de la femelle.
Et pour le faucon, s'il vous plaît, l'envergure,
c'est ça ? Et pour le faucon, je ne me souviens plus de l'envergure, mais ça doit être plus petit. Mais je vais vous montrer comment je triche, comment je peux le savoir en 15 secondes.
Le faucon, c'est plus à la couleur de la tête, puisque le mâle, c'est gris, et la femelle, c'est...
Oui,
gris.
Ça exactement. Ça, c'était une petite digression que je ne voulais pas faire, parce qu'après, on va pas pouvoir se coucher. C'est que les mâles sont en général beaucoup plus beaux. Pardon ? Les mâles sont beaucoup plus beaux que les femelles. Les canards. Voilà.
Parce que les femelles doivent pouvoir se cacher dans ces gélépanties.
Voilà, c'est exactement. Donc, la réponse logique, les mâles sont plus beaux que les femelles. C'est en fait que les femelles ont souvent des plumages cryptiques, des plumages qui imitent le branchage, qui imitent les feuilles mortes, et ainsi de suite. Elles ont besoin de se cacher. L'oiseau, c'est pour moi, c'est toujours un émerveillement de voir cet animal qui peut vous regarder et s'envoler, partir, faire le tour du monde, faire des kilomètres, voilà. Et il a une faiblesse. C'est que pour se reproduire, à un moment donné, ce descendant des dinosaures, il fait des œufs. Et bien, pour se reproduire, il va bien falloir qu'il s'arrête quelques moments et qu'il ponde ses œufs. Toutes les stratégies sont dans la nature pour pondre ça. Donc, on va avoir des stratégies de reproduction. On appelle vraiment les naturalistes, appellent ça des stratégies de reproduction. Elles vont être complètement différentes. J'ai la petite mésange qui va essayer de faire des œufs à fond. Elle va vivre 3 ou 4 ans, mais elle fait 12 œufs dans son petit nichoir, puis une deuxième fois 12 œufs dans un petit nichoir, et s'il y a assez d'asticots et assez de... elle va faire 3 fois 12 œufs par an, elle peut aller faire... Alors que le foudbassan, qui est un oiseau qui va vivre 25-30 ans, lui, chaque année, déjà la première année, il se barre du nid, et il va passer 3 voire 4 années en mer sans revenir au nid. C'est-à-dire que pendant 3 ou 4 ans, il ne se pose que sur l'eau. Il aborde toute la partie terre. Et donc là, tout d'un coup, il revient au nid et il va faire un seul petit. Et lui, il va vivre 25 ans. Donc les 5 premières années, c'est l'adolescence. Et après, pendant 20 ans, il va faire un œuf par an. Donc, un œuf par an qui va mener, qui va surprotéger. Et là, pour le coup, il a besoin que la femelle et le mâle donnent le même coup de main. C'est bien sûr la femelle qui va pondre. Mais l'un et l'autre vont se relayer, et c'est pour ça qu'ils ont le même plumage, parce que finalement, il n'y a pas besoin d'en avoir un qui effraie les prédateurs de l'autre. Et ils ont une autre technique de reproduction, ils se mettent en colonie. Comme ça, souvent les oiseaux de mer, ils se mettent en colonie, et les cormorans et ainsi de suite. Et comme ça, il n'y a pas de dimorphisme sexuel, il y a très très peu de dimorphisme sexuel chez les oiseaux de mer. Ils vont être en colonie, s'il y a un prédateur qui arrive et qui tourne autour, on va être plusieurs à vouloir le chasser. Et puis, s'ils s'attaquent à l'un d'entre eux, ils prennent... Alors souvent, le mieux, c'est quand même d'être au milieu de la colonie, plutôt que sur les bords, pour ne pas être mouflé par les renards, et ainsi de suite. Mais les places sont chères au milieu de la colonie. J'arrête la digression. Voilà. L'autre famille, je vous ai montré les rapaces. Il y en a un que je ne vous ai pas montré. J'ai la photo et j'ai oublié de la mettre. C'est l'épervier. L'épervier est un oiseau qui chasse dans les bois, les petits oiseaux, il ne mange que des oiseaux, lui, et il chasse en volant à toute vitesse, et entre les branches, en faisant des zigzags, et ainsi de suite. Cette attitude fait qu'il surprend les petits oiseaux, qui décollent parce qu'ils ont peur, ils ont vu quelque chose arriver, et là, lui, il les repère à l'œil, il double sa vitesse et il tombe dessus. Donc il a des ailes avec des plumes qui font une vague au bout des rémiges. Les ailes sont pointues quand il va très vite, mais quand il veut freiner, quand il veut tourner, alors il ouvre légèrement les ailes, et comme la pointe des plumes est en vague, alors il a moins de prise sur les bords, il freine plus facilement d'un côté ou d'un autre, Et donc, il va avoir ces possibilités de tourner à 45 degrés pour éventuellement revenir sur ses pas et attraper une mésange qui lui aurait échappé, mais qu'il a vue et qui a pris peur et qui est partie. Je me promets, je vous mettrai cette photo rapidement. Les pics, c'est la deuxième famille sur laquelle je voulais faire un petit coup de spot. Voilà, ça c'est, vous l'avez reconnu, c'est le pic épêche. Je ne vous ai pas mis son cri, mais il a un cri systématiquement, il fait pic, pic, pic. J'ai traduit en pic, bien entendu, mais il a l'habitude d'être sur le bois mort. Et c'est un oiseau que vous pouvez retrouver aussi quelquefois à la mangeoire, en train de manger des graines de tournesol ou des pommes que vous aurez laissées dans votre jardin. Un oiseau qui est finalement assez peu farouche avec l'homme, sauf qu'il est très très malin et qu'il n'a pas du tout envie de discuter. Il va vite partir. Il a un tout petit morceau de la calotte rouge derrière, et il a cette espèce de moustache qui revient en arrière et qui touche d'un côté le bec et de l'autre côté justement la tache rouge. Et enfin, il a les plumes en dessous rouges vifs et bien nettement rouges, et il a sur l'épaule une épaulette blanche bien marquée tout le long de... Ça, c'est le pic que vous voyez facilement, le pic épêche, on l'entend bien. Ça, c'est le cousin du pic épêche, c'est le petit pic épêchette. Alors là, beaucoup plus difficile à voir. Il a la taille d'un moineau, et il avait, pour moi, il avait vraiment disparu, quand on regarde les chiffres, il avait beaucoup, beaucoup souffert du fait qu'on abattait et on rangeait les arbres morts. Ce pic-là, contrairement au pic épêche, lui, il va se nourrir sur les toutes petites branches, les branches chenitales qui sont mortes. Et du coup, quand il y a des arbres morts, c'est vrai soit on les coupe, parce que ça faisait pas beau, autrefois on coupait les arbres morts, maintenant on les laisse, parce qu'on a conscience que ça amène de la vie, ça permet de porter la vie, mais on enlève les petites branches chenitales. Et du coup, le pic épêche, il trouvait de moins en moins d'endroits où gîter. Il a la calotte rouge entièrement, enfin tout le haut, il n'a pas de relais avec voilà, sa moustache ne rejoint pas, et il n'a pas d'épaule blanche. Et enfin, il n'a pas le croupion rouge. Donc, quand vous le voyez, dites-vous que vous allez voir la taille d'un moineau. C'est un tout petit oiseau. Il n'est pas à utiliser avec parcimonie. Et donc, il se cache. Alors lui, il se planque. Et donc, il faut tourner pendant des heures autour de la branche pour essayer de l'avoir en photo ou pour l'observer, parce qu'on veut être sûr que c'est bien un pic épêchette au lieu d'un pic épêche. Un autre oiseau qu'on voit de nouveau dans le parc de Marly. Quand je dis de nouveau, quand j'étais gosse, on ne le voyait plus. C'est le pic mare. Alors lui, c'est un peu le punk de la famille. Il a toujours les épaulettes blanches. Il n'a pas le relais complet. Et il a l'ensemble de la crête rouge. Alors là, je vous donne ces indications. On les retrouvera dans les livres. C'est des indications génériques. Après, il y a des petits pièges parce que les jeunes n'ont pas encore la crête rouge, alors que les jeunes du pic épêche ont la crête rouge et ils vont la perdre quand ils vont sortir. Bon, c'est oublier les pièges. Le dessous de cet oiseau-là, il est rose. Bon, on ne voit pas bien sur cette photo, mais il n'est pas aussi rouge pétard que l'autre. Et enfin, le pic noir qui est revenu dans le parc. Voilà. Alors j'y ai revenu parce qu'effectivement, quand j'étais gosse, on lisait ça dans les livres et il fallait aller dans le Jura pour voir ces oiseaux-là. Mais vraiment, en fait, il avait disparu quasiment de la région parisienne. Et il n'y avait que dans les grandes forêts où il avait la paix, où il pouvait encore, qui n'étaient pas forcément traitées ou exploitées, dans les grandes forêts domaniales, les forêts de chasse où il n'y avait pas forcément du bois à faire surtout. C'est compliqué d'aller enlever un bois mort qui est en plein milieu d'un grand domaine de chasse. S'il est entouré de tous les autres arbres, ça ne vaut pas le coup, puisque c'est un domaine de chasse, ce n'est pas un domaine rentable au niveau de l'exploitation. Voilà. Et ce pic-là, lui, alors là, par contre, on le voit maintenant souvent, enfin, allez, régulièrement dans le parc de Marly. Il est revenu dans les années 90. Vraiment, il a bénéficié de toute cette nouvelle école de jardinage, de paysagistes qui ont dit on va garder les arbres morts. Ces arbres morts apportent, quand ils vont tomber, des milliers de coléoptères, des milliers de bestiaux, de champignons et ainsi de suite, qui propagent la vie, qui permettent de garder la vie. Il faut absolument les garder. Et le pic noir, lui, est arrivé là-dedans et il a fait son beurre. Le bec ivoire, l'œil blanc ivoire aussi, et là on a affaire à un mâle qui a la crête complètement rouge. La femelle a simplement l'arrière de la crête rouge. Il a un chant un peu particulier aussi. On le repère en balade. Je vous ai montré les quatre pics en Île-de-France. On a cette richesse-là dans le parc de Marly. On a les quatre pics qui sont arboricoles. Je rajoute là-dessus le pi vert, qui est le pic qui va se nourrir principalement. Il se nourrit, il tambourine aussi sur les arbres. Mais lui, à la place de tambouriner, il va surtout pousser son cri de rigolade et il mange les fourmis. Il est plutôt dans l'herbe. On va plutôt le voir dans l'herbe. On le voit beaucoup sur les arbres aussi. Et dès qu'il peut se réfugier, dès qu'on arrive sur une prairie où il est là, il va s'enfuir dans les arbres. Mais donc il y en a un, vous avez remarqué, qui est quand même beaucoup, beaucoup plus coloré. On ne le voit pas bien sur la photo, mais l'arrière-train, le bas du dos, les caudales, les sous-caudales, sont jaunes fluorescentes. C'est, quand on le voit décoller, quand on a pris l'habitude de dire « Oh, c'est un pivert », on va voir ce jaune fluorescent et on va l'attraper dans l'œil. Et une fois que vous l'avez, c'est bon. Je voulais terminer en vous montrant deux coches. Petite digression sur les coches. Les ornithos, quand ils vont dans la forêt, ils vont se balader avec un guide. Parce que j'ai mis mon guide, c'est pas grave, j'en ai amené plein, puis je ne le retrouve pas. Bref, ils ont un guide, et au fur et à mesure qu'ils vont voir des oiseaux, ils vont faire une coche sur leur livre. Moi, je disais à mes enfants, alors quand ils avaient vu 10 oiseaux, je leur offrais un bouquin d'oiseaux à mes enfants. Et je leur dis, c'est le seul bouquin sur lequel vous avez le droit d'écrire. Je le dis parce qu'il y a le bibliothécaire qui est dans le fond et qui écoute, on n'a pas le droit d'écrire sur les livres.
Pas sur la bibliothèque.
Même ceux chez nous, nous on prenait le torgnole quand on faisait ça. Bon, bref. Et là, c'est le seul bouquin sur lequel ils avaient le droit d'écrire, ils avaient le droit de faire une coche, de marquer la date et éventuellement le lieu et le temps ou la température qu'ils faisaient quand ils l'ont observé. On voit, quand tout d'un coup on fait une coche d'une hirondelle des fenêtres en plein hiver, on le signale. Voilà. Et je vous montrerai après des applications qui permettent de signaler ça. C'est intéressant de savoir qu'on peut voir des hirondelles le 13 décembre, et quand on signale ça sur les applications, qui sont des applications gratuites, eh bien il y a quelqu'un qui va vous appeler, qui va vous demander d'être sûr de la description, de vous demander une photo si vous en avez une, ou un petit film de... Parce que ça va servir à la science, ça va servir à mieux comprendre le comportement des oiseaux. Il y a plein d'anomalies dans la nature. Nous, on a l'impression que tout est réglé, que tout ce que je vous dis, c'est comme du papier à musique. Mais à chaque fois qu'on commence à creuser, qu'on commence à regarder la nature, on s'aperçoit que les choses sont plus riches, pour pas dire plus complexes, mais plus riches, plus diversifiées, et que l'adaptation, le mouvement de la vie, il est vraiment fait pour aller chercher toutes les solutions. Et quand tout d'un coup, il y a une hirondelle ou un vol d'hirondelle qui se dit « Tiens, ça serait peut-être pas mal de partir plus tôt ou plus tard, ou d'essayer de remonter avant les autres », il y a une bonne raison. Les deux plus belles coches que je vous propose de voir, c'est des coches donc, que j'ai fait tout, enfin, une récemment. Donc ça, c'est le tarier-pâtre. C'est un petit oiseau qui est insectivore et qui se branche, se perche en haut d'une branche. Et alors là, c'est très marrant, quand on a une lunette ou un appareil photo, si on ne va pas trop vers lui, il ne bouge pas tellement. Il attend qu'il y ait un insecte, et hop, il part, il l'attrape et il revient, comme beaucoup de gobe-mouches, et ainsi de suite. Et c'est un vrai petit spectacle, c'est très rigolo. Et si tout d'un coup, le vent l'emmène sur une autre branche, il va sur une autre branche. Mais il ne cherche pas à fuir quand il voit l'humain, il est plutôt habitué, il est habitué à ce qu'il y ait du mouvement autour de lui, des moutons, des vaches, même des chiens. Donc il ne va pas discuter avec eux, mais... Et il se nourrit d'insectes et il est semi-migrateur, c'est-à-dire qu'il y a une partie de la population qui s'en va et qui va remonter vers le nord, et puis une partie de la population du sud, ou une partie de la population du sud de l'Espagne, et ainsi de suite, qui va venir chez nous. Et puis il y a une troisième partie de la population, ça c'est un vrai mystère de la migration, qui va rester ici. La migration pour les oiseaux, c'est un truc extrêmement intéressant. Il y a tout un bouquin de Maxime Zucca qui a été consacré à la migration, où il explique bien que quasiment tous les oiseaux migrent. Il décrit tous les modes de migration. Il y a des oiseaux, en particulier les tétras, ils migrent de 5 mètres, en fait 5-10 mètres, tous les ans. En fait, ils migrent du bas du sapin vers le haut du sapin. Quand il y a de la neige, c'est plus pratique d'être en haut, que d'être en bas. Et ils vont passer leur hiver en haut. Et donc ça induit plein de choses. Il y a des oiseaux qui vont faire quasiment le tour de la planète à chaque fois qu'une année va s'écouler. Et puis il y a le cas typique du rouge-gorge ou de la fauvette, qui sont des oiseaux plus opportunistes. On sait que les oiseaux vont avoir un challenge au moment où le mois de septembre va arriver, qui va se pointer devant eux, c'est est-ce que tu pars en voyage et tu suis la bouffe, c'est-à-dire les insectes, et tu vas aller vers le sud, tu vas aller vers l'Espagne, tu vas aller traverser la Méditerranée pour aller dans les pays du Maghreb, ou tu vas carrément traverser le désert en plus pour aller dans les pays tropicaux pour manger, parce que c'est ça le principal attrait, aller manger, et tu reviendras pour te reproduire ici. Donc nous, dans la topologie des Français, on voit les migrateurs qui montent, qui descendent, et ainsi de suite, on est très habitués à ça. Il y a des pays où les oiseaux disparaissent, et puis où ils réapparaissent. Nous, on est bien placés, on est sur les routes migratoires de ceux qui partent vers le nord, et de ceux qui descendent du sud vers nous, pour passer l'hiver ici. Donc cet oiseau-là, le choix qui va lui être laissé, c'est de dire, est-ce que tu pars ou est-ce que tu restes ? Parce que si tu pars, quand tu vas revenir, ceux qui seront restés, s'ils ont passé l'hiver, ils seront déjà en place sur le territoire, il faudra que tu chantes trois fois plus fort pour réussir à la voir, et les femelles qui seront arrivées, en plus, elles auront été séduites, auront commencé à chanter avant eux. Plus le fait que si tu pars pas très loin, par rapport au fait de si tu descends jusqu'au Maroc, alors que si tu t'arrêtes en Espagne, l'espagnol, il va recevoir les rayons du soleil qui vont développer, qui vont le doper dans la bonne direction avant ceux qui sont au Maroc. L'inclinaison de la Terre fait que on sait maintenant que le fait que les oiseaux qui ne sont pas descendus trop bas, ils vont être stimulés pour la reproduction plus rapidement. Ils sont stimulés par l'angle que font les rayons du soleil par rapport à la Terre. Et donc, on va avoir des combats entre les migrateurs et les non-migrateurs, les sédentaires et ceux qui vont rester là. Et avec l'âge, on peut avoir des oiseaux qui évoluent, mais en général, ces populations sont relativement fixes. Pour une bonne raison, c'est qu'on a des populations entières de fauvettes qui se reproduisent, toutes celles qui restent sur place. Il y a des mâles et des femelles, elles vont se reproduire avant même que les autres arrivent. Et avec le réchauffement climatique, elles ont peut-être le bon rôle. Parce qu'avec le réchauffement climatique, les petits asticots, les petits hivers, le printemps, les petits bourgeons arrivent plus vite. Quelques semaines de décalage font que ceux qui ont pris le pari de rester, si l'hiver n'a pas été trop rude, ils sont gagnants-gagnants. C'est le jackpot. Ils sont éveillés plus vite à la reproduction, ils ont à bouffer. Alors que quand les autres arriveront, la chenille, elle sera peut-être devenue un papillon. Et ça, c'est un vrai problème, parce que le papillon à manger, c'est beaucoup plus compliqué. Non pas à manger pour soi, mais à faire manger aux petits. On voit toutes ces mésanges, et ainsi de suite, sont des oiseaux granivores, qui vont se nourrir de graines toute la journée. Mais au moment de se reproduire, cet oiseau qui a ce problème, qui est un être libre, et ainsi de suite, qui a ce problème, il faut qu'il puisse faire des petits, se mettre dans un nid. Donc là, il devient vulnérable. Tout d'un coup, il faut que la reproduction, l'élevage aille le plus vite possible. Donc au lieu de lui donner des graines comme papa et maman, lui, on va le bourrer de protéines avec des vers, avec des vers de terre, bien sûr, mais avec un maximum de vers. Si les vers, sont les larves les chenilles ont disparu, se sont transformées en papillons, si les feuilles ont complètement éclos et qu'on n'arrive plus à voir où elles sont tombées, là, c'est trop tard. On ne peut plus nourrir les petits. Donc les bonnes années, on va avoir les mésanges qui vont faire 3 nidifications. Et on est à peu près certain que les mésanges, il y en a qui migrent et celles qui ne migrent pas, on sait les reconnaître, souvent au champ. Et là, j'ai plus de voix. Ah, j'ai plus de piles, en fait. Pardon. Et elles vont migrer. Et donc, elles vont... Ouais, on arrive à la fin. C'est le timing. C'est bien programmé.
Tout ça, c'est
préparé. Tout ça, oui, c'est voulu. Et donc, simplement pour finir sur cet enjeu de la migration, c'est des espèces entières qui s'adaptent ou ne s'adaptent pas au réchauffement climatique, au fait d'aller plus loin. Le réchauffement climatique, il a un intérêt génial. C'est que comme la planète se réchauffe, il n'y a plus besoin de descendre aussi loin pour retrouver la nourriture, à condition que les zones n'aient pas été détruites, et ainsi de suite. Mais en gros,
pourquoi descendre jusqu'au Maroc alors que la traversée de la Méditerranée, c'est un choc énorme pour plein d'oiseaux. Il y a chaque année des milliers d'oiseaux qui meurent en essayant de traverser ces zones-là. Ils y arrivent presque, et puis à un mètre de... Voilà, comme ils n'ont pas de palme, ben à un mètre de la... c'est encore la mer, ils meurent. L'idée, c'est que tout cet enjeu-là crée aussi, on s'aperçoit en étudiant de plus en plus l'ADN, on s'aperçoit que les mésanges bleus, surtout la répartition entre les migrateurs et les non-migrateurs des mésanges bleus, font que la femelle mésange bleue, pour maximiser sa reproduction, elle va avoir intérêt, de temps en temps, quand elle a commencé à avoir des œufs avec le non-migrateur qui était sur place, elle va sortir quand même de son nichoir de temps en temps pour aller manger, elle arrête de couver, et là, elle entend le chant du migrateur qui revient d'Espagne ou d'Italie. Bon, on les a tous, hein, les gars, les Italiens, tout ça, bon, bref. On s'aperçoit, en étudiant l'ADN maintenant, que 12% à peu près des mésanges bleus sont des fruits d'un adultère de mésange. Et donc, la femelle, elle le fait exprès pour maximiser les chances de sa descendance. Elle ne sait pas, elle le fait exprès. Elle ne l'a pas lu, elle ne l'a pas publié dans un post sur Internet. Elle s'adapte pour ça et elle fait en sorte que elle maximise la chance que les survivants soient en partie des migrateurs ou en partie des sédentaires. On en découvre tous les jours. C'est passionnant de voir à quel point ça fuse. Vous avez une question, j'ai l'impression, mais je n'ai pas de micro pour vous poser.
Je vais voir. Alors,
je ne l'ai pas dit en introduction, je me suis arrêté aux oiseaux du parc de Marly. Là, j'ai fait une digression sur les fous de bassin, il n'y en a pas beaucoup au parc de Marly, il n'y en a pas du tout au parc de Marly. Ça dépend des oiseaux. Il existe actuellement 10 000 espèces d'oiseaux. Et il y a des stratégies de reproduction complètement différentes. Et il y a certains oiseaux que vous connaissez tous qui ne reconnaissent absolument pas leur descendance, et puis d'autres qui sont complètement défendeurs de leur seul et unique rejeton. L'exemple le plus connu, les oiseaux de mer défendent leur rejeton à fond. Ils ont un espace. Et le rejeton, en souvent, il a un plumage brun. Il a un plumage, le fou de bassin, pour revenir à ça, il a un plumage tout brun. Parce que quand il va traverser toute la colonie, pour ne pas se faire taper dessus, il a cet uniforme d'indulgence où il passe en disant « Ouais, je suis un jeune et tout ça, laissez-moi passer. » Et donc, il s'en va et les autres l'auraient bien reconnu. Si c'est leur petit, ils peuvent lui taper dessus, ils peuvent le protéger. Et si c'est pas leur petit, ils vont lui taper dessus. Sauf que si c'est un jeune, il a se laisser passer pour fuir la colonie. Ça dure une heure, une demi-heure, mais c'est... Et à l'inverse, ça va dépendre... Alors, ça dépend des espèces, pardon, oui. Il y a d'autres oiseaux qui ne reconnaissent l'Hippolaïs polyglotte, il ne reconnaît absolument pas son petit, il est capable d'élever des coucous et les nourrir jusqu'à ce que l'oiseau soit trois fois plus gros que lui. Et voilà, il y a cinq ou six oiseaux comme ça qui se font avoir. Et le coucou, lui, ça c'est un grand mystère aussi, les chercheurs sont en train de travailler là-dessus. Comment le coucou sait qu'il va partir en Afrique, ok, bon allez, là il peut suivre les copains et ainsi de suite, qui va revenir et qu'il faudra qu'il ponde dans un nid d'Hippolaïs polyglotte. Où est-ce qu'il a... Nous, on le sait parce qu'on l'a vu sur Internet. Mais ouais. Comment lui, il sait que c'est un nid d'Hippolaïs polyglotte ? C'est, il y a une partie, effectivement, comment ces oiseaux qui vivent sur le dos des autres... Il y a des coucous dans le parc de Marly. Et la dernière photo que je voulais vous montrer... C'est un petit clin d'œil pour... Monsieur Michel Fessot, qui est au fond. C'est un oiseau que j'ai photographié en allant au parc de Marly, que vous reconnaissez tous. C'est la cigogne blanche qui est référencée comme étant visible au parc de Marly, à condition effectivement qu'on soit dans les zones et les périodes où elles sont là. Donc ça ne dure pas très longtemps. Elles ne nichent pas encore. Monsieur Fessot, vous me disiez... Par contre, effectivement, on retrouve des traces du fait qu'on est bien sur les routes migratoires. La région parisienne a été beaucoup plus faste pour migrer. Il y avait moins de lumière, 80% des oiseaux migrent la nuit, pour se repérer aux étoiles et pour se repérer à la pression magnétique de la planète, il migre la nuit pour pas être bouffé par les prédateurs. Nous aussi, hein, on roule la nuit, quand on rentre de boîte, c'est la nuit, pour pas se faire attraper par les gendarmes et les choses. Alors ça, on rentrerait le jour, ça serait plus compliqué. Et donc, il y a plusieurs mentions maintenant, entre la plaine de Villevert, qui est très calme, et le bas de la nuit, on pense qu'il n'y a pas de problème pour se poser dans le parc de Marly, de repérer les pièces d'eau, et éventuellement d'y boulotter deux ou trois grenouilles, avant de repartir. Les pauses migratoires, c'est vraiment ça qui va intéresser l'oiseau, il se pose et il n'y a personne. Le parc est fermé la nuit. Quelque part, c'est une préservation de la biodiversité temporaire. Bien sûr, on va rouvrir, il va y avoir du dérangement. Les gens qui viennent se promener, des gens qui viennent et qui font du bruit, ainsi de suite. Ok, mais pendant la nuit, on a vraiment un bijou là à préserver ensemble. Il y a plein de gens qui disent « Mais pourquoi on n'ouvre pas la nuit ?» Il y a sûrement des raisons politiques, ainsi de suite, ou financières, peu importe. Mais il y a un véritable réservoir de biodiversité, une protection indirecte de la nature qui est faite pour ça. Voilà, je vous ai montré à peu près toutes les photos que je voulais vous montrer.
Je ne sais pas s'il y a des questions. Je voulais vous parler de trois applications. Il y en a des centaines et des centaines. J'en ai privilégié trois. Vous pourrez prendre des photos, on pourra en parler. La première, elle s'appelle Merlin Bird ID. C'est une application américaine qui, on le voit, propose trois choses. La première, c'est de rechercher avec des critères. Donc on dit où est-ce qu'on a vu l'oiseau, quelle couleur, quelle forme, quelle grosseur, à quelle époque on a vu. Et il va vous proposer un choix. En gros, il va vous dire, si vous avez vu un grand oiseau noir et blanc avec les pattes rouges à cette époque de l'année, à cet endroit-là, il y a des chances que ce soit une cigogne, mais ça peut être aussi une échasse blanche, parce qu'il va vous proposer deux ou trois choix. Vous pourrez les regarder et les comparer. Il va reconnaître, c'est la meilleure application de reconnaissance des champs d'oiseaux. Ça marche sur de l'intelligence artificielle, il reste des bugs. Donc il faut absolument, quand vous chargez cette application, de bien penser à charger la base de données française ou la base de données européenne, à tout le moins, parce que si vous oubliez ça, il peut vous reconnaître des espèces américaines en comparaison, si vous voulez, avec l'intelligence artificielle. Mais plus on va alimenter, plus on va lui dire « oui, c'est bien ça », plus il va être précis et voilà. Et enfin, il reconnaît des photos. Vous lui montrez une photo. Vous avez pris une photo. Alors, prendre des photos d'oiseaux avec un téléphone portable, c'est un peu chaud patate, mais on lui présente une photo et il sait reconnaître. Quelquefois, il vous fait des propositions. Il existe une autre application qui est promue en ce moment, depuis pas très longtemps, par la LPO, qui s'appelle WhatsApp. Le directeur de la communication de la LPO est un copain personnel. Il adore les jeux de mots, c'en est fatigant. Donc il a appelé son application WhatsApp. Je ne sais pas pourquoi il ne la vend pas autant que prévu, il monte des stats. Bon, ouais. Et cette application-là, je l'emmène souvent sur le terrain, soit en iPad, soit en téléphone, parce qu'elle a une présentation, j'ai mis l'image à côté, où elle vous présente tous les rapaces d'un coup, avec le nom en dessous, et vous dites, est-ce que j'étais plutôt avec un rapace qui était en train de... Est-ce que c'était plutôt un faucon, plutôt une buse, plutôt... un Milan, et en cliquant dessus, il vous développe tous les Milans que vous avez dans le coin, et voilà, c'est strictement européen-français. Et la dernière, c'est une application que je donne souvent aux gens, il y en a plusieurs, mais une application de science participative. Souvent les gens me disent, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour aider la nature? Qu'est-ce qu'on peut faire pour... Une des choses qu'on peut faire, moi, la première, c'est ce que je recommande, c'est de se poser et de s'émerveiller. Parce qu'à partir du moment où on s'émerveille du hérisson ou de ce footbassin qui pendant 3 ans ne va plus toucher terre, avec Olivier on s'est rencontré sur un quiproquo sur les martinets. Le martinet était un oiseau, il s'appelle Apus apus. Enfin, c'est, Apus apus, ça veut dire patte, 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 patte. Il a tellement peu l'habitude de se poser qu'au fur et à mesure de l'évolution, ses pattes se sont rétrécies. Il a deux mini pattes qui qui lui permettent éventuellement de se dépasser dans son nid, il ne se pose jamais, jamais, jamais. C'est-à-dire qu'une fois qu'il est sorti du nid, pendant 2 ou 3 ans, avant d'être capable de se reproduire, il ne reviendra plus sur le nid, et il a développé des ailes en forme de faucille, et il monte à 3 km de haut la nuit, et il s'endort, il descend en planant, il va se reproduire en l'air, il va se nourrir en l'air, il va boire en l'air, il va attraper des petites plumes en l'air qui volent pour refaire son nid, et effectivement, il va y passer, la période de nidification dure 90 jours dans l'année, dès qu'il peut, il se barre, il retourne dans l'air, et il va faire 300 km dans la journée comme de rien n'était. Donc il va passer... Il est infatigable et il a toute sa morphologie est faite comme si il fatigue quand il est obligé de replier ses ailes. Vous savez, c'est Martinet, la légende, c'est de dire, ils sont tombés, il faut qu'on les relance en l'air. Souvent, ils sont tombés parce qu'ils ont plein de pluie, ils ont frôlé trop les averses. Ils frôlent les averses parce que les averses poussent les moustiques et tous les insectes, s'envolent, puis ils avancent. Et donc le Martinet, il va être devant le rideau de pluie, il va se régaler. Et puis de temps en temps, il se fait avoir, il se remplit d'eau. Et donc là, il se pose et il attend de sécher avant de repartir. Alors souvent, les enfants disent « Ah, zut, zut !» On prend le martinet, on le lance en l'air pour voir s'il va repartir. Non, il vaut mieux le mettre en hauteur pour pas qu'il se fasse bouffer par un chat, mais il faut pas le lancer. Il va très bien savoir redémarrer. Et ça, j'ai appris ça en lisant La Hulotte, que je vous recommande, qui est disponible à la bibliothèque, le journal de La Hulotte.
Il n'est pas disponible.
Ah bon, j'ai cru... je sais pas. Il y en a peut-être. Alors, je sais pas.
Proposition.
Ah bon. Ok. Et dernier point que je vous recommande, moi, c'est un peu ma Bible. Quand on me demande quelle est l'envergure du faucon cresserelle, je vais sur oiseau.net. C'est un site internet qui recense, alors là, pour le coup, tous les oiseaux du monde. Il est complètement en français. Il est fait par un groupe de copains français. Et si vous faites des photos, vous pouvez contribuer à alimenter cette base. Et on peut géolocaliser comme ça les... Alors, oiseau.net, ce qui n'a pas plus simple à retenir. L'INPN espèce, j'ai oublié d'en parler, j'ai fait une digression là encore. C'est pas bon ça. L'INPN espèce, vous allez contribuer en...
Contribution
à... Voilà. Mais ça marche pour toutes les espèces, pour tous les taxons de la biodiversité. Donc vous pouvez photographier des fleurs, photographier des oiseaux, ou les décrire, ou les retrouver, et dire « j'ai vu ça à tel endroit ». Si tous ensemble, on essaye de contribuer, à chaque fois qu'on s'émerveille et qu'on voit une cigogne... Moi, quand j'ai vu la cigogne, je l'ai tout de suite signalé sur le site. Alors là, c'était un autre site, à cette époque-là, un site de la LPO. Je l'ai signalé. Ça m'a permis le lendemain de me dire, bon, est-ce que j'avais bu un coup, et ainsi de suite. Parce que quand on voit une cigogne... Alors il y en avait trois, là. J'en ai photographié qu'une à travers les branches. C'était assez dur à photographier. Et c'était flou net... Et je suis allé sur le site et j'ai vu que la progression de ce groupe de trois, elle était recensée la veille un peu plus loin, elle a été recensée le lendemain un peu plus loin. Et donc je suis sur la route migratoire et maintenant avec les applications, vous appuyez sur le bouton comme ça et vous voyez la population qui se déplace sur la carte et qui dépasse la France et va en Allemagne. J'ai à peu près fait le tour, voilà, je ne sais pas si vous avez des questions.
Merci. Je ne sais pas si vous avez des questions ou je ne sais pas si on a le temps pour les questions.
Oui, je crois qu'on va s'arrêter là parce que la bibliothèque ferme à 8h. Merci d'être venu si nombreux. Et puis,
juste, que pensez-vous des perruches petits perroquets verts?
Bon, on va faire des échanges. Je suis désolée, on est obligé d'arrêter là. Allez, bonne soirée et merci. Et n'hésitez pas à emprunter les livres qui sont sur la table.
Bien sûr.
Merci beaucoup.
Passionnant. Il y a plein de choses à faire.